Oui, bonjour Daniel et bonjour toute l'équipe. Je viens d'écouter l'émission de ce vendredi après-midi. Je me suis allongée, j'ai fermé les yeux et j'ai laissé aller mes rêves dans le train de Montauban.
Salut Daniel, c'est Lucie dans la Manche. Eh ben, moi j'appelle pas pour pousser un coup de gueule parce que sinon je saurais pas par quel sujet commencer. J'appelle juste pour donner un petit peu de bonheur à tout le monde parce que je suis en stage dans une réserve naturelle depuis un mois et aujourd'hui je viens de voir mon premier bébé phoque. Et oui, dans la Manche, il y a des phoques. Et donc, voilà, c'était une vision superbe. Et j'étais seule à voir ça, mais j'aurais au moins fait partager un peu mon bonheur avec les autres. Et ben, j'embrasse tout le monde bien fort et merci pour ton émission. Salut.
Donc voilà, je suis de Tourette, dans le Haut-Var, un petit village qui est célèbre désormais pour son tout nouveau golf, ultra sécurisé, surveillé par caméra, mirador. Donc c'est à deux pas de chez moi, quelques kilomètres, même pas. Donc voilà, un beau gâteau de riche qu'on est en train de construire et qui est presque fini. Et en plus, je viens d'apprendre dernièrement que le même entrepreneur, c'est un richissime allemand, va nous construire un second golf sur la commune voisine. Donc on est encerclé par deux gâteaux de riche et ça commence à bien faire. Alors quand on sait que le Var est un département où l'eau manque, où on rationne l'eau aux paysans, où les incendies font rage, construire des golfs et gaspiller cette eau pour de belles pelouses vertes et grasses en pleine canicule, je crois qu'il y a un petit problème. Surtout que chez nous, les paysans crèvent le couteau sous la gorge, il y a de moins en moins de terres qui sont cultivées. Alors avec ça, j'ai envie de dire que le fric nous écrase, chez nous dans le midi, mais un peu partout. Alors ça commence à me révolter, il va falloir qu'on se boulègue chez nous pour faire des choses, pour changer les choses, et c'est pas évident. En tout cas, bon vent à ton émission, qui nous fait beaucoup de bien. À bientôt, et puis comme on dit chez moi en occitan, à ben léo, ciao viva.
Bonjour, c'est Nadine de Nancy. J'entends Sarkozy nous vanter le mérite de l'ouverture du capital de EDF, GDF, qui va vous permettre la possibilité d'investir à l'étranger, que la concurrence va faire baisser les prix. Et je pense à France Télécom, qui était une si belle entreprise, qui avait su s'adapter au boom du téléphone, malgré ses feignants fonctionnaires, dont les bénéfices avaient permis de financer Internet dans les écoles. Et maintenant, je vois son endettement colossal que ses clients et ses employés n'ont pas fini d'avoir à supporter. Et vos factures, elles ont baissé? Pas la mienne. Alors je dis bravo aux agents d'EDF qui se battent. Bravo et merci pour les usagers.
Voilà, c'est Christine de Rennes. Moi, j'appelle pour dire bravo aux gens d'EDF. Franchement, couper le courant aux riches et le restituer aux pauvres, j'appelle ça une opération Robin des Bois. C'est beau, c'est chaleureux et ça fait carrément du bien.
La semaine dernière, lors d'un répondeur, j'ai entendu dire que le baron qui se plaignait de pas avoir qu'on va supprimer l'électricité, en fait, ceux qui avaient démonté son compteur s'étaient aperçus qu'il était branché en direct. Et j'ai un copain qui est à l'EDF-GDF, là, et bon, j'étais quand même surpris de cette information-là. Il m'a confirmé l'info et il me confirmait aussi que Monsieur Raffarin avait lui aussi un branchement direct. Alors, ça serait peut-être le temps de mener une petite enquête, savoir ce que risquent ceux qui sont branchés en direct vis-à-vis de l'EDF et nos chefs, là, qui font tout et n'importe quoi. Et ben voilà, c'est désastreux. Merci, bonne journée.
Voilà, les messages. Là, il faudrait qu'on fasse effectivement une enquête un peu plus précise. Si nous n'avons pas le temps, à la base où je suis certain, absolument certain, que des confrères ne vont pas manquer de faire l'enquête demandée à plusieurs reprises par des auditeurs sur un répondeur de la base où j'y suis. À partir d'aujourd'hui, comme prévu nous, et comme promis, nous partons pour l'Italie des années 70, celle des années qu'on dit de plomb, les années noires et les années rouges, avec Francesco, Giorgini et toute l'équipe de la base, si j'y suis. On s'embarque pour Bologne, pour Milan, pour Rome. C'est tout de suite, juste après cet autre bouquet de messages. Je rappelle le numéro du répondeur, mais vous le saviez déjà, 01 56 40 37 37.
Je voulais vous faire part de ma colère parce que on nous a déjà dit que les Français étaient des feignants, et juste avant de commencer à démolir les 35 heures. Après, on nous a dit que les Français étaient des gros tricheurs qui faisaient du trafic de cartes vitales, histoire de bien démolir la sécu sans scrupules. Maintenant, la dernière, la cerise sur le gâteau, c'est que les Français donc font du travail au noir et que M. Borloo va partir en guerre contre ce travail au noir et a embauché des inspecteurs. Pour ça va être sa priorité. dans le cadre de sa loi sur la cohésion sociale. Monsieur Borloo, faites attention parce que la cohésion sociale, elle va se faire contre vous. J'espère qu'elle va se faire contre vous. Voilà, j'avais vraiment besoin d'exprimer cette colère. Donc c'est Claudine, je suis responsable d'un pôle permanent d'insertion dans le Val d'Oise. Et tous les jours, je vois des gens qui se battent, qui sont dans la merde et qui essayent de s'en sortir et qui n'y arrivent pas. Même ceux qui arrivent à trouver du boulot, ils sont tellement mal payés qu'parfois ils doivent choisir entre payer leur loyer et manger. Hein. Donc c'est pareil, on va pas expulser les gens, mais ceux qui sont de bonne foi. Comment est-ce qu'on peut raisonner de cette façon-là? Voilà, c'était un petit peu un cri de colère. Au revoir.
Au moins chez vous, les syndicalistes et manifestants ne sont pas d'affreux corporatistes, ni les fonctionnaires et salariés à statut, les privilégiés vilipendés dans la plupart des journaux de la presse dite grande. Chez vous, par exemple, le déficit de la Sécu est expliqué, par les pratiques des grands labos pharmaceutiques notamment, sans tomber dans la culpabilisation des malades, des vieux, des tricheurs de toutes sortes que seraient nombre de Français. Alors je le répète, à vous retrouver dans la grille de rentrée est mon vœu le plus cher. Alors, à bientôt quand même, hein, Daniel Mermet et toute son équipe. Voilà, c'était Rosie de Tarbes.
Era il manifesto cannibale di Dada e i dadaisti che si accapigliano in scena lanciando bistecche crude o avamarce verso il pubblico.
Les années noires, les années rouges en Italie, là-bas si j'y suis, Daniel Mermet, Francesco Giorgini.
Une décennie furieuse de l'italisme, ce sont les années 70. Des années impardonnables pour l'Italie.
Impardonnables?
Impardonnables. Et impardonnées.
Qui est Radio Nietzsche? Si en italien, on dit les années de plomb. On dit d'une guerre civile. C'était une guerre civile. D'un type spécial.
Perché sono volate molte palle di piombo.
Parce qu'il y avait beaucoup de balles en plomb qui passaient dans l'air.
E poi di piombo per dire che l'atmosfera era di piombo, cioè grigio piombo.
Et d'un autre côté pour dire que l'atmosphère était gris comme le plomb.
Est-ce que vous les appelez les années de plomb vous aussi?
Oui, aussi. Pas seulement, mais en tout cas, oui.
Noi abbiamo un aggettivo in italiano, che è plumbeo, che significa grigio pesante come il piombo.
On a un aggettivo in italien qui n'existe pas en français, qui est plumbeo, qui veut dire de la couleur grise lourde du plomb.
Parce que il y a eu beaucoup d'armes, des pistolets, des bombes. Alors on les appelait pour ce motif surtout parce qu'il y avait beaucoup de morts et d'attentats.
Oh, non, les gammes, les années de plomb.
Moi, je ne les appelle pas les années de plomb et je suis très dérangé. On gêne très fort quand ils sont appelés comme ça.
Mi piacerebbe chiamarli gli anni della grande rivolta in Italia.
J'aimerais les appeler les années de la grande révolte en Italie.
Il fut un temps où, en Italie, l'impuissance devint une honte personnelle, une honte insupportable, jusqu'à la moelle, jusqu'à l'os. Alors, une génération d'ouvriers, d'étudiants, de paysans, de voleurs, de bicyclettes et de filles au sein en olive avec une croix entre les deux, on brandit des drapeaux rouges et des trompettes cabossées. Braillards, bavards, rigides, allumés, rigolards, des cœurs purs, des sincères qui croyaient un peu trop à la violence rédemptrice. À coups de pied, à coups de pierre, ils gueulaient « le fascisme ne passera pas » et les carabiniers tiraient dans le tas. Un tas de quoi? Eh bien, c'est dans ce tas qu'on part aujourd'hui, un tas d'hommes, de femmes, encore vivants, visiblement. Un tas d'histoires dans un placard, un douloureux placard, et plein d'histoires que personne ne vient réclamer, un passé qui reste en travers de la gorge de cette Italie, de ces Italiens et de ces Italiennes, au sein en olive, avec entre les deux un tatouage qui représente aujourd'hui Che Guevara, probablement. Voilà où on va dans cette révolution vaincue, perdue, cocue, dont la page est tournée et illisible sous les taches de sang, taches rouges en forme d'étoile sur l'Italie, l'étoile qui reste sur ce tas d'histoire, sur ces guérillas vides, sur ces guenilles vides des années 70, étoile des brigades rouges, bien sûr, comme la 4L rouge retrouvée dans cette rue de Rome. Et c'est dans la question de la violence que nous allons, la violence armée, le terrorisme rouge qui marque au fer rouge ces années, comme un seul et unique totem qui resterait. Bien sûr, il y avait une histoire avant, il y avait une histoire pendant, il y eut une histoire après, et c'est par là que nous allons. Pourquoi ? Parce que il y a eu l'affaire Battisti en France, Cesare Battisti, avec cet enthousiasme, souvenez-vous, on a déjà oublié, ce soutien à ce réfugié italien menacé d'extradition. Et puis soudain, des nouvelles sont venues d'Italie, d'intellectuels, de journalistes, de juges de toutes sortes pour dire « Assassini Battisti, Battisti est un assassin, ami français, vous vous trompez ». Alors du jour au lendemain, on a lâché Battisti. Nous ne sommes pas allés en Italie avec Francesco Giorgini pour sauver Battisti, ni même pour enquêter sur Battisti, mais pour essayer de retracer ce que furent ces années. Ces années où Battisti faisait partie des centaines, des milliers de jeunes qui se battaient, qui ont cru aux armes, qui ont cru qu'on pouvait changer le monde et qui en sont sortis bien vaincus, cocus et déçus. Pourtant, c'est sans doute dans les révolutions perdues qu'on trouve plus d'enseignements, de leçons, d'émotions que dans les révolutions victorieuses qui sont souvent des révolutions trahies. Jusqu'à 18h, dans la base si j'y suis, on va se balader donc dans ces années noires et dans ces années rouges avec un écrivain que vous connaissez qui s'appelle Eri De Luca. Eri De Luca pour nous mettre dans le bain, parfois bain de sang, bain de colère, bain de jouvence, bain de rigolade, bain d'invention, bain de foi indéniable, bain de rébellion, bain d'insurrection qui furent ces années-là. On va chez Eri De Luca, c'est à quelques minutes de train de Rome. Il nous attend à la gare et en route pour les années noires et les années rouges.
È cominciata di nuovo la caccia alle streghe. I padroni, il governo, la stampa, la televisione. In ogni scontento si vede uno sporco cinese. Uniamoci tutti a difendere le istituzioni. Ma oggi ho visto nel corteo tante facce sorridenti, le compagne 15 anni, gli operai con gli studenti, il potere agli operai, no al sistema del padrone, sempre uniti vinceremo, viva la rivoluzione. Quando poi le camionette hanno fatto i caroselli, i compagni hanno impugnato i bastoni dei cartelli, ed ho visto le auto blindo rovesciate, poi bruciate, tanti e tanti poliziotti con le teste fracassate. Oggi ho visto nel corteo tante facce sorridenti, le compagne 15 anni, gli operai con gli studenti, il potere agli operai, dal sistema del padrone, sempre uniti vinceremo, viva la rivoluzione. Quando poi le camionette hanno fatto i caroselli, i compagni hanno impugnato i bastoni dei cartelli ed ho visto le auto blindo rovesciate poi bruciate, tanti e tanti poliziotti con le teste fracassate. La violenza, la violenza, la violenza, la rivolta, chi è esitato questa volta lotterà con noi domani. La violenza, la violenza, la violenza, la rivolta, chi è esitato questa volta lotterà con noi domani. La violenza, la violenza, la violenza, la rivolta, chi è esitato questa volta.
C'est bien plus calme que ça aujourd'hui. C'est bien plus calme. On est dans ce train, on est parti de Rome et on va voir Eri De Luca. Eri De Luca, écrivain que vous connaissez, vous connaissez la silhouette, à défaut de connaître c'est ce qu'il écrit, magnifique, magnifique écrivain. Pourquoi commencer par Eri De Luca? C'est que de toute cette histoire noire que beaucoup voudraient être oubliée, c'est le premier à être un peu présentable dans tout ça, parce qu'il a ce succès d'écrivain, parce qu'il est d'une inoxydable fidélité à ses années, à sa jeunesse et à ses compagnons et à son époque et à son pays. C'est l'homme fidèle par excellence. On le met en haut à gauche. En haut à gauche. Eri De Luca pour tous ceux qu'on essaye de mettre en bas à droite. Voilà, on est avec Francesco Giorgini et son Panama. Et Eri De Luca nous attend à la gare dans sa petite bagnole rouge. Un type silencieux, ascétique, un faux bourru, très mince. Si Beckett avait dessiné, il aurait eu beaucoup de plaisir à dessiner Eri De Luca, mais enfin Giacometti aurait pu très bien s'en charger. Et on arrive dans la campagne, dans une longère, une sorte de longue maison basse, dans une toute petite pièce où Eri De Luca a l'air de vivre. Il y a son lit, il y a ses outils, il y a une table minuscule devant la fenêtre. Il coupe frugalement quelques tranches de jambon, il débouche une bouteille de vin et nous sert à Francesco et moi un verre de rouge. Lui, il ne mange, il ne boit que le soir. Et on se pose et l'histoire commence. Oui, Eri De Luca, on a envie d'évoquer les années de plomb. D'abord, est-ce que vous les appelez des années de plomb?
Non. Non, non, c'était une décennie furieuse de l'italisme. Ce sont les années 70. Des années impardonnables pour l'Italie.
Impardonnables?
Impardonnables. Et impardonnées. Il y a encore toute la suite pénale de cette activité politique révolutionnaire avec des gens qui purgent encore des peines à perpétuité, donc, et encore impardonnable.
Et pourquoi pas l'amnistie?
Mais l'amnistie, c'est un mot interdit en Italie. Interdit dans le sentiment de la nation qui ne veut rien pardonner normalement à ses ennemis. Il pardonne tous les crimes économiques. Chez nous, les crimes économiques font partie de la possibilité de s'enrichir et donc font partie de ce qui est admis. L'amnistie, c'est impossible aussi à pratiquer en Italie parce que il faut les deux tiers du Parlement. Et donc, c'est un pourcentage impossible à rejoindre.
Première question, celle de l'amnistie vis-à-vis des condamnés de ces années rouges et de ces années noires. Eux, on est beaucoup moins sévères vis-à-vis des noirs que des rouges. Parce que, je le disais en commençant, si ce qui surnage et ce qui reste de ces années lointaines qu'on appelle années de plomb, c'est effectivement le terrorisme des brigades rouges, l'enlèvement d'Aldo Moro, etc. Mais c'est ignorer que tout a commencé, si on prend cette décennie terrible, tout a commencé par des attentats commis par l'extrême droite, qui avait, on reviendra dans les jours qui viennent, bien sûr, sur ce premier attentat, celui de Piazza Fontana, le 2 décembre 1969, mais c'était un attentat qui a été imputé de manière unanime à l'extrême droite. Et on a appris récemment que les auteurs présumés de cet attentat ont été acquittés. 35 ans plus tard, on ne sait toujours pas qui a véritablement commis cet attentat. Par contre, les rouges, les auteurs de crimes ou de toutes sortes de délits ont été condamnés massivement, longuement, et effectivement, toutes les demandes d'amnistie, on est en train de parler d'histoires qui remontent à 30 ans, l'amnistie n'a pas été choisie par les autorités, par le pouvoir en Italie, à la différence d'autres moments de l'histoire, par exemple la France après l'Algérie, après 62, quelques années plus tard, l'amnistie a été prononcée à l'égard de l'Oise comme des insoumis ou des déserteurs. On évoque parfois la Commune de Paris où l'amnistie a été prononcée quelques années plus tard, je ne sais plus exactement combien, mais assez vite. Là, en Italie, des années plus tard, cette amnistie n'a pas été prononcée, et c'est évidemment le premier combat et la première revendication de ceux qui ont vécu cette époque et qui ne l'ont pas oublié, comme Eri De Luca.
J'ai commencé à prendre les premiers coups de la police le 67 à Naples. C'était une manifestation pour le Vietnam. Et de là, ça, c'était le coup de cloche de mon engagement. Je l'ai terminé 13 ans après, devant la porte 11 de la usine Fiat, pendant l'automne où nous résistions à l'expulsion de dizaines de milliers d'ouvriers décrétés par la direction de l'usine à ce temps-là. Ça, c'est la durée de mon engagement, et la grande partie de cette durée, je l'ai passée dans l'otta continua.
En 67, vous étiez qui ?
67, j'étais un garçon qui étudiait à l'école et qui avait lu un livre sur le Vietnam et était descendu dans la rue parce qu'il y avait une manifestation.
Vos parents, vous étiez de quel milieu ?
Un milieu bourgeois qui, après la guerre, parce que je suis né après la guerre, s'était appauvri, et au fur et à mesure, il avait récupéré dans les années suivantes l'aise précédente. Donc j'étais un garçon qui pouvait aller à l'école et qui était au lycée au moment.
Quelle était la place de la guerre dans votre imaginaire à l'époque ?
Mais la guerre, cette histoire précédente, immense et cruelle, qui avait investi la vie de mes parents avec le plus grand massacre de l'histoire de l'humanité. Donc c'était une chose qui retentissait dans leur tête, dans leur vie et dans leur histoire, donc dans les récits qu'ils faisaient. Et l'histoire précédente, la guerre, faisait partie de notre éducation sentimentale. Nous écoutions les histoires des parents et nous étions émus, pris par des commotions et aussi par le rire, parce qu'il y avait aussi des histoires drôles, des histoires de chance, de bonne chance qui se passaient. C'était tout mêlé, c'était l'écoute pour nous. Écouter ces histoires, c'était tout le leg qui nous arrivait des parents.
L'héroïsme de la résistance, des partisans, ça avait une place pour vous ?
Une réaction furieuse au moment de sa libération. Il a réussi à chasser, dans le septembre de 1943, les Allemands. Les Américains étaient autour de Naples, étaient à côté de Naples, mais ils n'entraient pas. Les Allemands ne s'en allaient pas, donc dans cet entracte, les Napolitains se sont ont pris la décision improvise, comme ça arrive dans les insurrections, de réagir et d'accélérer l'histoire. Ils ont poussé, avec 4 jours de guerre civile, de guerre populaire, les Allemands de Naples. Rome a été libérée par les Américains, Naples non. Naples a été libérée par les Napolitains.
Ces résistances populaires avaient une place importante dans vos imaginaires.
Oui, après l'écoute d'enfants de ces histoires, ma curiosité était de connaître cette histoire et cette guerre. Chez nous, l'histoire à l'école s'arrêtait au début du siècle, à la Première Guerre mondiale. C'était interdite la deuxième. Donc la deuxième, c'était une chose à nous de la chercher et de l'apprendre. Et mon père était plein de livres de son histoire parce qu'il voulait connaître son histoire. Il voulait savoir qu'est-ce qu'il s'était passé autour de lui, de sa chance d'avoir survécu.
Et quelle place avait le Parti communiste ?
pour vous dans votre jeunesse?
Mais le Parti communiste en tant que parti était pour moi trop rigide. C'était une formule d'organisation, d'obéissance, de hiérarchie trop rigide, donc je ne l'aimais pas. J'étais plus un esprit anarchiste. Je tolérais mal les chefs et les distances. Et donc l'Otta Continua, c'était parfaite pour moi, cousu sur mesure. Le 68, j'ai laissé la maison, la vie, la ville, l'étude, et je suis parti moi-même en cherche de fortune, non? Comme ça, comme un vagabond. Et là, c'est commencé vraiment ma vie. Et le 69, ça a été l'année de la transformation de la lutte politique et des sentiments envers la lutte politique. Il y avait évidemment des secteurs de l'État qui forçaient vers la guerre civile avec des massacres, avec des bombes. Le 69, la police tirait encore sur les paysans en lutte, fusillait des paysans en lutte. Donc c'était une Italie ancienne et féroce, celle contre laquelle cette jeunesse a commencé à réagir.
Mais l'élément qui déclenche tout, c'est évidemment l'attentat de Piazza Fontana.
L'attentat de Piazza Fontana nous met face à une monstruosité qui pouvait arriver jusqu'au coup d'État. Ce que nous craignions dans ce moment-là et dans ces années-là, c'était la dictature, le retour de la dictature en Italie. Le coup d'État fasciste militaire, c'était pas une surprise pour la mer Méditerranée. Le Portugal était fasciste, l'Espagne était fasciste, la Grèce était fasciste, la Turquie aussi. Donc c'était dans un axe, un parallèle du fascisme, auquel manquait juste l'Italie. Et l'Italie, c'était le pays qui avait le plus grand parti communiste, aussi commençait à avoir la plus grande gauche révolutionnaire de l'Occident, était sur le bord du monde soviétique, du monde communiste. Donc était dans une position stratégique qui le rendait central. Donc, chez nous, l'ordre du jour, c'était le risque du coup d'État fasciste et la préparation d'une résistance insuffisante.
Vous dites « nous ». Alors, c'était quoi le « nous » à ce moment-là?
Le « nous » que j'ai connu, c'était le « nous » plus vaste possible. C'était toute la jeunesse de ma génération. Il y avait des sigles, Potere Operaio, Lotta Continua, il y avait l'Unione dei Comunisti Marxisti-Leninisti, il y avait aussi le Manifesto, che outre un journal était aussi un mouvement politique. Donc il y avait une effervescence d'organisation de base. Donc le « nous » était le « nous » de ce mouvement de la gauche révolutionnaire qui commençait à résister à la police, à la pression judiciaire. Commençait à être la génération qui devrait devenir la plus emprisonnée de l'histoire d'Italie, pour raison politique. Beaucoup plus emprisonnée que celle sous le fascisme.
On dirait un objet posé sur une étagère, hein, ce chant qui renvoie à une histoire, celle de l'Italie. Hein. Mais il faut faire attention en écoutant Eri De Luca, qui parle français, mais c'est pas la même histoire. Les années 70, en Italie et en France, se ressemblent, on est cousins, mais le mai italien a duré 10 ans et ça a été une histoire finalement différente. Et il faut être prudent, parce que autant nous pouvons rouler les mécaniques avec certains d'entre nous, moi avec notre mai 68 où nous avons tout inventé, nous étions formidables, extraordinaires, et après nous le déluge, mais voilà. Et puis après, beaucoup plus tard, il y a eu Action Directe qui a été une aventure extrêmement extrêmement brève et sanglante, tandis que en Italie tout ça s'est mêlé et a duré une dizaine d'années, qu'évoque Eri De Luca.
Évidemment, nous étions enracinés dans les lieux, nous provoquions des luttes, par exemple dans les quartiers romains, nous faisions les occupations des logements laissés vides par les grands patrons des bâtiments. Il y avait des gens qui n'avaient pas de toit, et nous allions faire des occupations, donc on résistait aux expulsions, on réussissait à obtenir des choses comme ça. Donc nous étions enracinés dans les quartiers de Rome, je peux dire que nous étions là, nous avions dans la ville de Rome 30 sièges d'organisation. Donc nous étions enracinés, mais si ce n'était pas le cas, on ne pouvait pas durer si longtemps. Si on n'est pas soutenu par la, les couches sociales intéressées par notre action, on ne peut pas rester si longtemps sur la scène politique. Il y avait une fièvre politique en Italie, nouvelle, dans ces années-là. La possibilité de masse populaire de pouvoir obtenir des choses qui étaient tout à coup à la portée de la, des luttes. C'était ce petit degré en plus de fièvre qui était dans la population, qui passait dans la population. Ce passé de 36 à 37, non? Et qui nous permettait d'être soutenus énormément par le mouvement de masse. Lotta continue dans le moment où le Chili vient d'être renversé par le coup d'État.
73.
Lotta continue fait une souscription sur son journal pour recueillir des armes pour le MIR. C'était l'équivalent de Lotta continue de l'autre côté. Et donc, Lotta continue fait une souscription sur son journal public et l'Italie répond à ça. Il y avait un journal qui était quotidien, officiel, qui recueillait des armes, explicitement des armes, armes pour le MIR. Et il arrive à rejoindre une somme que Lotta continue dans ses souscriptions n'avait jamais obtenue. Donc, c'était une situation fiévreuse dans l'Italie de ce moment-là. Et c'est ce petit degré qui fait détacher l'iceberg, non? C'était tout l'iceberg qui commençait à se détacher parce qu'il y avait cette augmente de 1 degré de température dans les eaux. Nous avions 20 ans, mais nous étions à cet âge-là, et dans les circonstances de l'Italie d'hier, nous étions adultes. On a pu redevenir jeunes après.
Sur le plan des idées, c'était quoi vos références? Vous prétendiez marxiste, vous étiez trotskiste, maoïste, etc. Ou bien c'est des choses qui étaient secondaires, ces grandes discussions de fond?
Donc, moi, j'aimais Rosa Luxembourg et des autres étaient trotskistes, des autres étaient léninistes. Il y a aussi quelques maoïstes, c'était une minorité, mais c'était pas l'important de se faire des divisions ou des subdivisions sur le passé.
Il y avait des catholiques aussi?
Il y avait aussi des catholiques. Mais c'était le fait qu'on était d'accord sur le présent. Mm-hmm. On faisait pas des sectarismes sur le passé.
À partir de quand la question de la violence se pose de votre côté? Dès le début?
Dès le début, la gauche révolutionnaire a besoin de se défendre et revendique le droit à l'emploi des armes pour la résistance. Parce qu'on commence à se préparer à un coup d'État, à résister à un coup d'État. C'est notre statut, statut aussi de révolutionnaire. C'était comme ça. Il n'y avait pas quelqu'un qui était contre la lutte armée. Nous étions tous pour la lutte armée. Comme une nécessité, la nécessité finale, mais il fallait s'organiser pour ça. Lotta continua, c'était une organisation publique. Donc, considérer les choses qui regardaient la violence comme des choses nécessaires, mais secondaires. C'était une nécessité de la lutte politique, de se pouvoir défendre aussi, de frapper les fascistes, contrôler des quartiers populaires. Donc c'était important pour ça, une petite organisation militaire, mais c'était une activité complètement secondaire. Mmh. Par contre, les organisations clandestines mettaient tous leurs efforts dans la seule pratique de la lutte armée. Donc frapper quelqu'un, c'était leur activité politique. Pour nous, ça c'était la mineure des choses.
Vous aviez des discussions entre vous?
Non, parce que le moment où les clandestins se clandestinisent, on ne les rencontre plus. Et maintenant, on sait qu'ils parlaient très peu aussi entre eux. Parce que la clandestinité oblige à une obéissance, étrangle le débat.
Ecco, guarda, noi siamo un gruppo di operai che stiamo cercando di organizzarci, no? E vedere di venire giù anche noi perché vogliamo venire.
Radio Alici, Bologna, 1977.
Cazzo, conoscete altro, smettetela, porci e vergognatevi, merde!
Se tu invece di essere a casa fossi qua, saprei
cosa vuoi che voglio fare, che vi ho visto all'opera!
Cosa sta succedendo?
Sta
succedendo di gente con i manifestanti, la polizia che ha fatto freddo, la fanculo, pezzo di merda, benvenuto, bombo!
Cazzo, stronzo!
Mais quel rapport vous aviez avec le Parti communiste italien?
Antagoniste. Il avait une relation très hostile, donc. Nous étions des provocateurs, des extrémistes provocateurs, comme ça. Même quand il y avait des groupuscules, on disait, non? Même quand on faisait des manifestations avec une centaine de milliers de personnes, toujours des groupuscules, ils nous accusaient aussi d'être des anticommunistes. Nous les accusions de n'être pas communistes.
Vous étiez en relation avec d'autres mouvements en Europe?
Nous étions en relation avec tous les mouvements révolutionnaires du monde. Parce que l'Italie avait la plus grande gauche révolutionnaire de l'Occident et venait tout chez nous. Tout le monde venait chez nous. De l'Amérique du Sud, de l'Angola, ou du Vietnam, ou de l'Irlande, l'Espagne, tout chez nous venait. Ont été abrités chez nous, soutenus. Nous étions une centrale, un lieu central pour la gauche révolutionnaire du monde dans ce moment-là. L'Italie, c'était comme ça.
Quel a été le moment d'apogée de l'OTAN continua?
Le moment où elle s'est déçue. Décide de se dessoudre, de s'appliquer un solvant chimique, plus que politique. C'était le 76, et c'était le moment de sa majeure croissance, mais aussi de sa majeure confusion. Au congrès de l'OTAN continua, 76, tous les dirigeants anciens décident de leur retraite. J'étais là et je l'ai aussi...
Vous avez approuvé ça?
J'ai dit qu'il était des déserteurs.
Pour vous, c'était des déserteurs?
Et bien sûr. Mm-hmm. On s'appelait l'OTAN continua, on ne pouvait pas finir, non? C'était une contradiction en termes. J'aurais mis encore 4 ans pour comprendre que c'était terminé.
Donc,
je n'arrive pas à comprendre tout de suite.
Toujours aujourd'hui?
Toujours aujourd'hui, j'ai besoin du temps.
Alors qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes perdu, vous êtes orphelin?
Orphelin de la communauté à laquelle j'avais, dans laquelle j'étais grandi, dans laquelle j'avais mis ma jeunesse.
Mais de quoi vous viviez?
Et jusqu'au 76, j'étais militant officiel de l'OTAN continua. Je prenais un salaire minimum pour me tenir libre pour l'organisation. Et après, j'ai fait l'ouvrier.
Ouvrier?
Ouvrier. Maçon. Et c'est le travail que j'ai fait en France aussi, quand je suis venu en France, dans les années, au début des années 80. J'ai travaillé en France dans une entreprise de bâtiment. J'ai commencé à gagner ma vie comme ça, avec des compagnons ouvriers avec lesquels j'étais dans l'OTAN continua. Et au 78, je suis allé à Turin, parce qu'il y avait encore une continuation de la lutte ouvrière. J'ai été embauché par Fiat, j'ai travaillé à Fiat. Parce que la lutte continue. Donc, alors, je voulais continuer. Et à la Fiat, la lutte continuait. C'était informel, il n'y avait plus de lutte continue, il y avait des autres. C'était tout simplement la résistance contre la tentative de la direction de reprendre le pouvoir sur la machine de production. Parce que ce qu'ont obtenu vraiment les ouvriers dans ces années-là, avec ces luttes, avec nous, c'est d'avoir du répit, du soulagement sur le travail. Les requêtes étaient des requêtes qui ne visaient pas l'argent, mais la possibilité de vivre mieux dans l'usine. Donc nous avons arraché le pouvoir de ne se faire pas écraser par le travail et par la dictature du travail. Pour un long moment, dans les années 70, les ouvriers ont commandé dans la fabrique, dans l'usine. La direction essayait continuellement de reprendre les rênes, et ça s'est passé à l'automne du 80. Ils ont décidé qu'ils ne pouvaient pas prendre les rênes sans chasser les dizaines de milliers d'ouvriers là-dedans. 24 000. À la maison, dehors, licenciés. J'étais là, on a fait une lutte d'une quarantaine de jours en bloquant toute la fabrique, toute l'usine. Et on a résisté jusqu'à la... On a essayé tout simplement de faire payer le plus cher possible cette expulsion.
C'était la plus grande usine d'Europe quand même.
Et les ouvriers sont devenus, ont été réembauchés?
Presque personne. Presque personne. La Fiat a préféré payer pour l'auto-licenciement.
Signor padrone, questa volta per te è andata proprio male. Siamo stanchi di aspettare che tu ci faccia ammazzare. Sì, continua a lavorare.
sindacati vengono a dire che bisogna ragionare. Ma di lottare non ne parla mai, e signore padrone, ci siamo svegliati, e questa volta si dà battaglia, e questa volta come lottare.
24 000 ouvriers furent licenciés, virés en 1980, effectivement, de la Fiat, l'une des plus grandes usines d'Europe à ce moment-là, et c'était un peu la fin de cette histoire de plus de 10 ans, et pour Eri De Luca, c'était l'adieu aux armes.
C'était quelqu'un qui était défait et qui avait la chance supplémentaire face aux autres de ne pas être poursuivi par la justice, parce que la justice s'acharnait sur ceux qui avaient fait de la lutte armée, explicitement ceux qui s'étaient après embauchés dans la clandestinité. Moi, je n'ai pas eu le sentiment de m'embaucher dans la clandestinité, mais par claustrophobie. C'était un sentiment de claustrophobie politique. Je ne pouvais pas m'enfermer dans une chambre et préparer des attentats. C'était pas pour moi, donc, faire ça. Je pouvais aussi préparer des attentats, mais en public, dans les manifestations, en plein air. Et en plus, j'avais sur moi les yeux de quelques centaines de militants de lotta continua, spécialisés en service d'ordre et choses comme ça, qui regardaient mes mouvements pour voir ce que je faisais et où j'allais pour me suivre. Et donc, je suis allé dans un endroit où personne ne m'a suivi, que c'était la vie ouvrière. Hein? Là, personne n'avait envie de me suivre.
C'est-à-dire que c'est tous ces gens qui avaient si longtemps et si fiévreusement parlé du monde ouvrier l'ignoraient complètement.
Non, l'ignoraient pas, mais c'était pas leur endroit, leur destin, leur... Une fois terminée la lutte politique, il y a eu des gens qui se sont détruits, par exemple à travers les drogues. On a eu beaucoup de camarades à la fin de lotta continua qui se sont tués avec l'héroïne. Des autres sont devenus philosophes ou mystiques et sont partis pour l'Inde. Mais la plupart restaient là, où on n'avait pas un endroit où aller, donc ils sont restés dans leur emploi, dans leur place. Moi, on s'attendait peut-être de moi que j'entrais dans quelques luttes armées, et donc que je faisais partie d'une armée clandestine avec les autres qui m'ont suivi, mais je n'ai pas donné cet exemple aux autres. Il y en a eu beaucoup qui se sont engagés dans la clandestinité. Et pas, moi non. On rentrait dans la vie de ceux qui ont été vaincus. Nous avons été des vaincus.
Est-ce que dans le mouvement altermondialiste, aujourd'hui, est-ce que tu vois une renaissance, une suite de votre lutte?
La seule suite est dans le fait que ce mouvement s'intéresse du monde. Il parle pas de soi-même pour établir son endroit dans le monde, mais il parle du monde pour savoir ce qui est, ce que lui est. Et c'était le même parcours que nous avons fait. Nous sommes partis du monde autour. Nous avons été traînés dans les rues par le Vietnam, par la Grèce, de toutes les choses qui se produisaient dans le monde. Nous étions une jeunesse qui partait du monde, qui décidait de sa place dans le monde à partir de ce qui venait dans la planète. Ce parcours est le même de cette jeunesse de maintenant. Mais si, ici se termine toute la rassemblance. Ils sont des gens complètement différents, se trouvent dans des conditions complètement différentes. Ils n'ont pas besoin de montrer une hostilité, un antagonisme, de résister à une pression judiciaire, une répression, un écrasement, une volonté d'écrasement. Donc, ils se trouvent à pouvoir épanouir leurs possibilités, être contagieux, plus que nous.
Si on t'écoute, le monde a changé vraiment.
La jeunesse a changé, profondément. Le monde a changé parce que le monde que j'ai connu, c'était un monde qui était rond, non? Mais rond comme une monnaie, pas comme une boule. C'était une monnaie. Il y avait deux faces qui essayaient de s'écraser l'un l'autre. Et donc, il fallait être sur une des faces. Et nous avions décidé d'être sur la face du monde communiste, non? Mais maintenant, le monde est une boule. Il n'a pas plus le centre sur sa surface. Le Vietnam était central. Parce que là, dans ce moment-là, les deux faces de la monnaie jouaient une bataille décisive. Mm-hmm. Et aussi, un angle éperdu du monde devenait le centre, le nombril de la situation. Même l'Italie était centrale. Aujourd'hui, l'Italie, c'est une province de économique de l'Europe. Mm-hmm. C'est rien. Ça n'a aucune valeur politique ou stratégique. Somme rien. Le moment où le monde n'est plus partagé en deux, il y a l'écroulement du monde communiste, le monde est devenu un terrain de chasse d'une super-pouvoir.
Alors où sont les camps maintenant?
Les camps...
Où est l'ennemi?
L'ennemi sommes nous. Parce que nous sommes les envahisseurs, nous sommes ceux qui ont le majeur pouvoir politique, économique et militaire. Donc, cette...
Quand tu me dis nous, tu veux dire l'Occident.
L'Occident. Cette immensité de concentration de possibilités, au lieu de nous rendre ouverts et disponibles à partager la richesse avec le reste du monde, nous rend, le contraire, plus acharnés sur notre richesse, sur notre entêtement à gouverner le monde. Maintenant, nous avons monté contre nous une haine colossale, géante du monde arabe, mais... d'une grande partie de l'humanité. Et donc nous sommes responsables de ce qui nous advient et de ce qui nous adviendra.
On a l'impression parfois que dans cette haine d'une partie de l'humanité contre nous, enfin contre l'Occident, il y a comme la volonté de fabriquer un ennemi.
Oui, on a toujours besoin de fabriquer des ennemis pour se justifier. Mais nous, maintenant, nous sommes dans une position de grand avantage économique, militaire, politique. Donc, nous sommes dans une condition où nous pourrions établir un ordre loyal, solidaire, généreux, établir une alliance monde favorable.
Aujourd'hui, tu participes à des manifestations, tu milites, tu...
Oui, je vais aux manifestations. Je vais. Mais je vais en queue. Je me mets dans la queue des manifestations. Je ne suis plus sur la tête, je suis la mouche du buffle, je suis le poil de sa queue.
C'est pas si mal, hein?
À être dans la queue?
Oui, c'est le moment que tu piques toujours.
Je suis à la plus tranquille dans la queue. J'adhère pour vice, oui. Mais pas pour conviction.
T'as des regrets? Tu vis avec des regrets?
Non. Heureusement, non, c'est un sentiment que j'ignore.
Mm-hmm. Un désenchantement?
Mais j'étais des enchantements. Ça, c'est bien. Mmh. Mais des enchantements se terminent. Mmh. Mais avoir eu des enchantements était un bel avantage de mon âge. Mais ce que je garde est la possibilité mentale de rencontrer le jeune homme que je suis, que j'ai été, et avoir le sentiment qu'il a envie encore de me serrer la main.
Tu veux de la cohérence, tu veux une cohérence.
Je vais être loyal avec le jeune homme que j'étais. Loyal. Loyal avec les risques qu'on a pris, les amours qu'on a eus, loyal.
La foi que vous aviez, c'était quand même celle de pouvoir changer les choses, hein, de pouvoir changer le monde, de pouvoir intervenir sur l'histoire.
Pouvoir changer les choses, mais jour par jour, sans remander les changements à l'avenir ou à l'endemain, qui sait. Mais tous les jours, nous avions l'impression de... faire basculer la balance des pouvoirs tous les jours.
Moi, je suis un lecteur passionné d'Herri, et notamment dans le dernier recueil de nouvelles, je crois, ou l'avant-dernier, il y a une très belle nouvelle sur le G8 de Gênes, où quelque part, Herri De Luca a dit... Pour la première fois, j'ai considéré à nouveau nécessaire d'y être. Et évidemment, en fond de cortège, mais...
Sur la queue.
Sur la queue,
queue du buffle.
Voilà, sur la queue du buffle.
Alors, Gênes, il fallait y être?
Mais le sang de Gênes, le sang éparpillé, le sang versé à Gênes, fait ressonner à nouveau la cloche pour nous. Il nous a convoqués à nouveau pour une deuxième partie.
C'est très mystique ce que tu dis, hein?
Le sang versé à Gênes.
On dirait le sang de San Gennaro.
Le sang de Gennaro va et vient et plein de santé. Le sang de Gênes versé une fois pour toutes et n'a aucune santé. Ce sang
éparpillés sans gaspiller, mais qui nous convoque parce que c'est ancien. Carlo Giuliani est mort comme un de nous dans ces années 70.
Donc tu penses que quelque chose est reparti là?
Non, non, pour nous ça a été une reconvocation, un être appelé à nouveau par ce sang. Plus que pour les raisons de la mondialisation, mais par ce sang versé. Ça est un sang qui nous appartient.
Non c'è ancora la polizia dentro Radio Gap, appena vediamo il primo carabiniere o poliziotto sbucare, non sappiamo di che cosa si tratta, ve lo comunichiamo. E la polizia, si sta arrivando la polizia?
Sta arrivando?
È qua dentro?
È dentro al cortile la polizia.
Abbiamo chiamato Agnoletto? Gabriella, abbiamo chiamato Agnoletto, l'hai chiamato tu personalmente? Ah, per cortesia chiama Agnoletto personalmente.
Merci à Eri De Luca, un livre de Eri De Luca, Le contraire de 1, par exemple, il y en a beaucoup d'autres. Celui-là, voilà, c'est celui qu'on préfère, Le contraire de 1, chez Gallimard. Plus d'informations à votre disposition sur le site de la Bassi, j'y suis, en allant sur franceinter.com. Collègue et journaliste Francesco Giorgini qui nous accompagne dans tout au cours de ce voyage. Technique aujourd'hui Michel Thomas et Antoine Viossa. Réalisation Antoine Chao. Musique assistant Coy Nguyen. Montage Claire Auter et Yann Chouquet. Assistante Pascal Pascariello. Et le répondeur c'est le 01 56 40 37 37. Et c'est Christophe Humbert dit Totoff qui s'en occupe. Le mail daniel.mermet@radiofrance.com réclame.